En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Bien, messieurs, je suis désolé de devoir dire messieurs, il n'y a pas une seule dame. La guerre n'a pas déjà aboli la distinction des sexes, du moins l'étude de la guerre, pardon. Non, c'est assez frappant, enfin, effectivement. Mais bien, je vous propose de reprendre nos travaux un peu en avance, si ça ne vous... Mais comme cela, nous, si nous pouvions terminer à 5 heures, c'est ce qui est prévu ? Eh bien, nous changeons alors complètement de sujet, puisque là, j'allais dire, nous entrons dans le vif du sujet, c'est-à-dire lorsqu'on en vient aux mains, ce qu'il en advient... dans le cadre de référence de la géographie. Et donc, c'est monsieur... Vous prononcez votre nom comment ?
Herriot.
Herriot, tout bêtement, quoi, si j'ose dire, normalement. Très bien. Qui a la parole ?
Bien, je vous remercie. Donc là, il s'agit d'une étude de cas, d'un tas d'opérations qui portent sur les Alpes, un milieu montagneux, et qui s'inscrit dans la logique de la Grande Guerre. Cette guerre blanche qui se déroule à 2000-3000 mètres d'altitude et qui a été baptisée guerre blanche justement car la neige était abondante, tout bêtement. Là, on s'inscrit dans la configuration du théâtre des opérations italiennes qui court sur 600 km environ du Stelvio, c'est-à-dire à la frontière entre l'Italie, la Suisse et l'Autriche, à la mer, et avec à peu près 600 km de montagne. Alors, il est certain que la guerre en montagne, en Italie, s'inscrit dans une tradition, puisque les trois guerres du Risorgimento de 1848, de 1859 et de 1866 s'étaient déroulées aussi dans les Alpes, mais pas dans des proportions que nous connaissons entre 1915 et 1918. Et au cours de cette guerre, le commandement italien, c'est-à-dire le commando suprême, a dû adapter la tactique, les modes de combat, à la géographie et aux contraintes du milieu. C'est toute la question de savoir s'il en a été capable et comment il s'y est pris. Alors, pour répondre à cette question, simple, nous avons à notre disposition beaucoup de documents, les diaries historiques, c'est-à-dire les journaux de marche à opération des unités engagées dans les Alpes, les circulaires du haut commandement italien, les souvenirs, les témoignages, les journaux, la presse, la littérature et le cinéma qui donnent une image fantasmée un peu de la guerre. Et puis aussi les marques mémorielles, les traces mémorielles, comme les ossuaires, les sanctuaires, autant d'éléments qui permettent de mettre en perspective trois points que j'aimerais développer. Un premier point sur la nécessaire adaptation du combat au milieu. Un deuxième point qui découle du premier, c'est l'exploitation polymorphe de la guerre. Et un troisième point qui s'inscrit dans la représentation fantasmée de cette guerre dans un milieu particulier qui est celui de la montagne. Alors, le premier point porte sur l'adaptation nécessaire au milieu. Comme vous le voyez à l'écran, le front italien suit grossièrement un S articulé autour de deux saillants orientés en sens inverse l'un de l'autre. Le Trentin, qui est dirigé vers le sud, et le Cadore Frioul, qui est dirigé vers le nord. Concernant le Trentin, là, il s'agit d'un bloc montagneux qui s'organise de part et d'autre de la vallée de l'Adige. À l'ouest du Trentin, on a un relief de haute montagne avec une ligne nord-sud qui va du massif de l'Ortles jusqu'au lac du Garde et qui culmine à peu près à 3900 mètres d'altitude. Tandis qu'à l'est du Trentin, on a un relief montagneux aussi. Ah, merci. Avec les montées Lessines, ici, qui est de l'ordre de 2236 mètres, et ces massifs montagneux de 2300-2500 mètres, qui encadrent ce qu'on appelle le Val Sugane, c'est-à-dire la haute vallée de la Brente, qui donne accès au Trentin. Donc là, on est dans un milieu nettement de haute montagne, c'est indéniable. Le saillant du Cador et Frioul est un saillant vers le nord qui présente la particularité d'avoir la chaîne de montagne des Dolomites avec la Marmolade et le Col d'Ilan dans cette région-là, dépassent les 3000 mètres. Les Alpes carniques et les Alpes juliennes, qui ont une altitude de 2300 à 2400 mètres. Et au fond, l'avantage de ces dispositions des Alpes cadoriques, des Alpes carniques et des Alpes juliennes, c'est qu'elles débouchent sur des vallées italiennes est-ouest, comme le Pustertal, qui ont un intérêt stratégique majeur, puisque ça met en relation avec Vienne et Trieste également, l'autre vallée de l'Isonzo. Donc là, on est vraiment sur le plan stratégique, dans des conditions qui imposent en quelque sorte des natures du combat, une nature du combat particulière. J'ajouterai également que cette ligne de front est difficilement franchissable. Les accès majeurs qui permettent de pénétrer dans le Trentin ont tous été verrouillés par un système de fortification du côté italien comme du côté austro-hongrois entre 1871 et 1914. Dans la partie ouest du Trentin, la vallée du Stelvio, qui est la route du Stelvio, qui est la route la plus élevée de l'Europe et qui est enneigée une bonne partie de l'année. Le Val Giudicare, qui est l'autre vallée de l'Oglio, également verrouillée par le front, par des fortifications. Et le Val Sugan, qui est également verrouillé par des fortifications. Donc le Trentin s'inscrit dans une logique défensive ou offensive, peu importe, mais des deux côtés. En ce qui concerne les Alpes cadoriques et les Alpes carniques et les Alpes juliennes, les voies de pénétration sont nettement plus réduites et beaucoup moins accessibles, mais le front italien présente la particularité d'avoir une route latérale qui passe par Auronze et qui donne accès aux hautes vallées de la Piave et du Tagliamento, qui également ont été verrouillées par un système de fortifications, comme le Pieve Cador, par exemple. Autrement dit, nous sommes là dans une logique de relief montagneux et de fortifications qui, au cours de la Grande Guerre, ont conditionné le déroulement de la guerre et les objectifs tactiques et stratégiques. Le général Cadorna, qui est en poste en juillet 1914, dès le 21 août 1914, en tant que commandant en chef du commando suprême, rédige un mémoire dans lequel il définit la tactique à utiliser dans les Alpes. Jusqu'en 1914, la tactique mise en place était essentiellement une tactique défensive. Mais à partir d'août 1914, et au fond, l'Italie entre en guerre dès le mois d'août 1914, et non pas en mai 1915, il y a là une préparation indéniable, on s'inscrit dans une logique à la fois défensive et offensive. Car le mémoire du général Cadorna, qui date du 21 août 1914, est confirmé par la circulaire numéro 2324 du 29 avril 1917, qui conditionne la nature même du combat. Je cite la circulaire du 29 avril 1917. L'art des fortifications se soumet au terrain et non le terrain à l'art. Pour obtenir un front le moins développé avec la plus grande économie de force, la défense doit être portée sur les hauteurs, avec des flanquements occupés par des mitrailleuses installées dans des cavernes creusées dans la roche et des raccordements à la cimenti en italien ou cortines passant par les vallées prenant la forme de tranchées. L'objectif est donc de s'emparer des hauteurs au moyen de l'assaut frontal, mais dans une logique défensive. L'originalité donc de la tactique mise en œuvre par le général Cadorna, dès 1914-1915, confirmée par la suite, c'est une tactique qui est à la fois défensive et offensive. Et il y a là une confusion, en quelque sorte, dans la nature même du combat, qui génère une guerre polymorphe, qui est adaptée ou inadaptée au milieu, car il a bien fallu de façon empirique, n'existant pas de doctrine d'emploi des forces de montagne clairement identifiées en Italie jusqu'à la Grande Guerre, il a fallu trouver des solutions. Donc j'en arrive au deuxième point, c'est-à-dire l'exploitation polymorphe de la guerre. Ce qui est frappant, c'est qu'au cours de la Grande Guerre, la guerre en montagne prend différentes formes. La forme du coup de main, la guerre de position, ultra classique, la guerre de l'assaut frontal, de l'offensive, ou la guerre de mine. Concernant la guerre de coups de main, c'est certainement la guerre qui génère le plus de fantasmes. Je le verrai par la suite dans le troisième point. Mais il y a quand même un acte très symbolique et qui a été magnifié par la presse. C'est la prise du Montenero le 16 juin 1915. Le Montenero se situe dans cette zone-là, dans l'entour de Tolmine, dans le haut Isonzo, qui permettait en quelque sorte de verrouiller la cuvette de Caporetto. Nous sommes en 1915, 16 juin 1915. Là, il s'agit d'un coup de main d'une petite unité, quelques compagnies des bataillons de chasseurs alpins italiens, Alpini et Exilissus, qui prennent d'assaut le mont de nuit Après avoir grimpé une paroi rocheuse à pic, c'est la face sud-est du Vrat à 2014 mètres, pour atteindre une position d'où elle s'élance à la baïonnette et à la grenade, pendant par surprise les Autrichiens. La prise du Monténégro le 16 juin 1915 est l'exemple type de la guerre en montagne faite de coups de main. Alors, bien entendu, ces épisodes restent rares, et ce qui domine avant tout, c'est une guerre d'opposition. Une guerre d'opposition dans laquelle l'intendance et le génie ont un rôle plus important que tous les facteurs opérationnels. Car il a fallu creuser des tranchées en montagne conformément à la circulaire numéro 250 du 10 février 1915. Ces tranchées en montagne sont celles que l'on trouve sur le Carso, la Bensise, en Champagne ou en Artois, c'est exactement la même chose. Sauf que la circulaire exige que ces tranchées soient protégées par une artillerie lourde, des canons de 149 mm, 210 mm, qui devaient être installés à proximité sur des flanquements, des flancs de collines ou au sommet des positions. Par exemple, sur le Tophane, des canons de 149 mm ont été montés à dos de mulets et hissés à la force des bras lorsque les mulets ne pouvaient pas passer. Et pour cela, le génie a été obligé de creuser des routes dans les flancs de montagne, construire des téléphériques, aménager des abris creusés dans la roche, des baraques en altitude, surtout à partir de 1916. Ce sont les trois documents que je demande à Philippe gentiment de montrer. Il y a là, ici, un travail du génie qui est une vire, c'est-à-dire une corniche qui a été creusée dans une paroi, qui permettait ainsi aux troupes italiennes, aux mulets de passer et éventuellement de transporter du matériel, des munitions et surtout les fameux canons. Photo suivante. Pardon.
Non, non, vous inquiétez pas.
Alors là, il s'agit de la représentation type. Il s'agit là de la représentation type du milieu de combat avec le Passubio dans le fond. Et au pied du Passubio, tout à fait au bas de la photo, vous voyez des baraquements qui ont été installés par le génie, dans lesquels les troupes pouvaient prendre position, et les tranchées qui sont tout à fait en haut, dans une logique de pénétration ou d'occupation de l'espace. Photo suivante. Voilà l'escalier permettant l'accès à un observatoire en montagne, le secteur de la Carne, qui a été aménagé par le génie, encore une fois, pour pouvoir adapter la tactique militaire au milieu montagnard. Alors, je dois dire que cette guerre en montagne exige beaucoup d'effectifs et ne se limite pas simplement aux troupes alpines. On a des centaines de milliers de fantassins qui font la guerre et ils la font comme ils le peuvent. Mal équipés, mal entraînés, découvrent pour la plupart la montagne. Ils sont commandés par des officiers qui n'ont aucune expérience alpinistique et qui appliquent la guerre, qu'ils appliquent sur l'Isonne, ce qu'ils ont appris dans le manuel militaire. J'ai ici le témoignage inédit, publié en 2008, d'un fantassin volontaire, parce qu'on a beaucoup de témoignages sur les soldats du Carso de la Bensise, qui est la grande guerre, finalement, des Italiens, mais peu de témoignages d'Alpini qui ont été publiés. Là, il s'agit du volontaire Alfredo Ortali, de la 3e compagnie du 51e régiment d'infanterie de la Brigade des Alpes. C'est un fantassin qui se bat dans les Dolomites entre juillet et octobre 1915. Et son témoignage permet de se faire une idée de la guerre type du fantassin en montagne. Il alterne des périodes de repos à l'arrière-front et des périodes de 8 jours de tranchée à 2000-3000 mètres d'altitude. Il combat dans le secteur du col d'Ilan. Il mène une guerre dans des tranchées à l'air libre, à 2000-3000 mètres d'altitude, ou dans des baraquements où l'on retrouve les poux et la vermine. À l'arrière, il effectue des corvées, des tours de garde, des transports de munitions et de canons, de 149 et de 210 mm, des patrouilles en haute montagne, le tout sans aucune période d'acclimatation, sans entraînement, sans matériel adapté, ni chaussures de montagne. Et si l'on accepte la patrouille en haute montagne, sa vie ressemble fort à celle d'un camarade dans les tranchées de l'Isonne. Un autre témoin de la bataille qui est menée au col d'Ilan, à plus de 2000 mètres d'altitude, permet de se rendre compte du champ de bataille en haute montagne. Voici ce qu'écrit Gelasio Caetani le 4 novembre 1915. « De jour, j'ai pu étudier et même dessiner ce labyrinthe de tranchées et de chemins. J'ai pu déambuler à travers ce champ de bataille, tout bouleversé par les bombardements, parsemé de cadavres couverts de fusils, de sacs à dos, de capotes et de choses en tout genre. Nous passons au milieu de barbelés et de chevaux de frise, rompus, ravagés par les tirs d'artillerie. Nous sommes là à plus de 2000 mètres d'altitude, 2500 mètres d'altitude. On a l'impression de lire un témoignage d'un champ de bataille dans la plaine de l'Isonne ou en Champagne ou ailleurs. » Donc c'est bien la preuve qu'on est là dans une logique d'inadaptation au milieu. Alors pour autant, la guerre blanche a aussi ses propres caractères. La mort blanche, la mort provoquée par exemple par les avalanches, celle du 13 décembre 1916 est restée dans les mémoires sur les pentes du Tofan, puisqu'elle déplace 4 millions de mètres cubes de neige, elle bloque la route d'accès à la chaîne de montagne, au point qu'il a fallu faire une tranchée de 18 mètres de haut pour établir la circulation. Sur la Damelle, un chasseur alpin du bataillon Edolo se souvient qu'à cause des chutes de neige, il était resté bloqué avec quelques réserves de vivres, mais peu de bois, et il fait tellement froid qu'on est obligé de distribuer le vin en morceaux avant de l'écraser puis de le mettre dans une bouteille. Et puis surtout, les chaussures posent un problème. Alors les fantassins n'ont pas de chaussures cloutées, n'ont pas de chaussures de montagne, mais les alpines également ont des chaussures qui, au bout de quelques semaines, deviennent totalement inadaptées. Les clous s'en vont. L'empeigne, c'est-à-dire la partie supérieure de la chaussure, laisse passer l'eau. Les semelles se détachent. Et encore plus grave, les usines de chaussures remplacent le cuir par du carton pressé pour faire des économies, au point que les alpines finissent par s'en amuser en chantant, je cite, « Autrefois, pour faire des chaussures, il fallait des cordonniers. Maintenant, on a découvert qu'il suffisait d'avoir des libraires. » En dépit de cette façon de faire la guerre, le commandement applique la doctrine d'emploi classique, c'est-à-dire l'assaut frontal, totalement inadapté au terrain. Le col d'Ilan, par exemple, est tellement l'objet d'assauts sanglants qu'il finit par être surnommé par les Italiens le col di sangue, le col de sang. Et puis il y a quand même des offensives menées par les Austro-Hongrois et menées par les Italiens qui engagent des centaines de milliers d'hommes et du matériel considérable. La Straf expédition, l'expédition punitive austro-hongroise dans le Trentin de mai-juin 1916, mobilise 14 divisions austro-hongroises contre 10 divisions italiennes. Dans le massif de l'Ortigar, en juin 1917, les Italiens attaquent avec 12 divisions d'infanterie, 24 bataillons alpines, c'est-à-dire 300 000 hommes, 500 canons moyens, 450 légers, 550 bombardes, pour un front de 14 km à une altitude atteignant les 2000 mètres. Et les pertes sont considérables. La Straf Expedition coûte 147 600 Italiens, 82 900 Austro-Hongrois. L'Ortigar coûte aux Italiens entre 25 000 et 28 000 hommes, et surtout la moitié des chasseurs alpins italiens. Or, à chaque fois, dans cette logique d'offensive frontale et massive, les deux armées échouent pour les mêmes raisons, à cause du milieu montagneux. L'artillerie lourde et moyenne ne peut pas suivre la progression des troupes. Matériellement, c'est impossible. L'artillerie de montagne n'est pas suffisamment puissante pour briser les lignes de défense. Puis surtout, en altitude, il y a un problème de balistique. La balistique change, car il y a une plus faible densité de l'air. Et donc, le rôle de l'artillerie est fondamental dans le combat en montagne, à condition d'avoir un tir très ciblé, très précis, pour détruire les lignes mitrailleuses, pour détruire les emplacements de canons. Là, bien souvent, l'efficacité de l'artillerie est tellement médiocre que les positions défensives montagneuses se révèlent imprenables. Donc, il ne reste plus qu'à utiliser la guerre de mine, la guerre de sape, de contre-sape, pour essayer de contourner les difficultés du milieu. Le col d'Ilan a coûté tellement de sang, le col d'Isang, qu'il n'est plus pris par un assaut de l'infanterie, mais par l'explosion d'une mine dans la nuit du 17 au 18 avril 1916. Ce qui est très intéressant, c'est que la guerre de mines se développe considérablement, surtout dans les Dolomites, où l'on a des exploits. Par exemple, dans le Tofan, en février 1916, les Italiens creusent en plein milieu de la paroi glacée de la montagne une galerie de 500 mètres à l'aide de deux perceuses pneumatiques hissées à la force des bras et à l'aide des câbles. Et le 11 juillet 1916, une explosion de 35 tonnes provoque un entonnoir de 80 mètres de diamètre. Dans le massif du Passubio, le massif des deux dents présente la particularité d'opposer une dent italienne à une dent autrichienne, séparée par un col. Et dans le secteur autrichien comme dans le secteur italien, les hommes s'enterrent dans des galeries, exactement comme la colline de Vaucois en France. Et puis, autre élément très intéressant, dans le massif de la Marmolade, le glacier du massif de la Marmolade fait l'objet d'une guerre de sape et de contre-sape, tel point qu'est née une ville de glace pendant la guerre dans ce secteur-là. Vous voyez que cette guerre dans les Alpes, guerre de montagne, véritablement polymorphe, parce qu'il a fallu essayer de trouver des réponses empiriques, pragmatiques, dans une logique de tradition, d'innovation, Mais cette représentation polymorphe a débouché sur une représentation fantasmée de la guerre. C'est mon troisième point. La propagande s'est emparée en effet de cette guerre blanche pour l'idéaliser. Le service cinématographique et photographique aux armées a joué un rôle déterminant conformément aux instructions du commando suprême. Les normes techniques et d'emploi du service photographique terrestre aérien qui est rédigé en mai 1918 indiquent en effet, je cite, « Les appareils photographiques trouvent leur meilleur emploi dans les régions de haute montagne, car l'air doit être très transparent, frais avec peu de vapeur d'eau en suspension, avec une température uniforme. » Et de fait, les unités photographiques et cinématographiques de montagne ont toujours été privilégiées. J'en ai noté 4 sur 7 en 1915, 5 sur 8 unités en 1917. Et les opérateurs mènent donc une guerre en altitude. C'est la photo suivante, où l'on a des opérateurs du service photographique et cinématographique de la première armée dans la Valteline, qui sont obligés de monter le matériel au sommet de la montagne. On a là, ce n'est pas une mitrailleuse ni un canon ou autre, c'est simplement un objectif photographique pour faire des photos de montagne. Parce que la photo s'inscrit dans une logique de propagande majeure. Il s'agit de transfigurer cette guerre en montagne. Et la presse quotidienne et populaire, en particulier des journaux comme l'Illustration italienne, qui est l'équivalent de l'Illustration le journal français, sont très friandes de ce genre d'informations parce qu'elles donnent une autre image de la guerre, où l'on met en perspective les conditions d'extrême de la vie en altitude, la vie quotidienne, les privations, et puis aussi les rêves de gloire dans un paysage somptueux. Et c'est la photo suivante, il s'agit de la une de l'Illustration italienne, qui est une photo dans laquelle on voit des chasseurs alpines qui sont au sommet. Et on voit là une transfiguration du milieu de guerre avec une logique un peu romantique, poétique, si je puis dire. Comme si... Exactement. On est là dans une logique de... On redessine la guerre, si je puis dire, par le biais de cette logique-là. Et comme vous le voyez à l'écran, ce sont les chasseurs alpins qui finissent par incarner, personnaliser cette nouvelle guerre en montagne. Gli alpini, dans la littérature, dans le cinéma, dans la presse, finissent par acquérir une dimension mythique bien supérieure à celle de ces nouveaux combattants héroïques que sont les aviateurs ou les gens de l'aéronautique. Ce qui est frappant, c'est qu'on a toute une série de combats. D'ailleurs, il y a une chose très importante, Cesare Battisti, qui est le grand tiradin du Trentin, qui a déserté l'armée austro-hongroise pour s'engager dans l'armée italienne, fait la guerre dans les chasseurs alpins et est fait prisonnier dans le massif du Passubio le 10 juillet 1916, à la tête d'une unité de chasseurs alpins, avant d'être exécuté dans les fossés du château de Trente le 12 juillet 1916 pour haute trahison. Et son sacrifice patriotique n'a fait que confirmer la dimension surhumaine du chasseur alpin. Alors la presse populaire s'est emparée de ces nouveaux combattants héroïsés de la guerre des Alpes. Alors, j'ai pris deux photos. La photo suivante permet de se donner une idée de la représentation du chasseur alpin dans la création fantasmée du rôle du combattant dans les Alpes. Vous avez ici représenté le dessin de Gennaro D'Amato dans l'Illustration italienne qui a été repris dans le journal L'Illustration française. J'ai pris la version de l'Illustration française dans laquelle on voit le chasseur alpin arracher le poteau du Trentin. Et de ce fait, le chasseur alpin incarne bien le soldat volontaire italien qui mène une guerre offensive de pénétration et de libération dans le Trentin. Autre représentation mythique du chasseur alpin, grâce à des dessins d'Achille Beltrame. On a par exemple publié dans la Dominica del Corriere, qui est le supplément illustré du grand quotidien Il Corriere della Sera, où l'on voit une représentation fantasmée du rôle du chasseur alpin. Si tu peux monter le document, là on voit l'exploit sportif par excellence, vous voyez, chasseurs alpins qui sont dans le vide, mais qui se raccrochent avec leur armement. L'exploit sportif, l'opération commando, le coup de main, ils se battent à coups de pierre, utilisant les armes ou autres. On a là une représentation qui permet de transfigurer le combattant. La littérature s'est imposée, s'est emparée aussi de ce thème de la guerre en montagne. Par exemple, Sotlanai, Vita e guerra d'Alpini, publié en 1916 de Mario Mariani, qui est l'un des romans les plus utilisés, les plus dans la lecture de la guerre, ou comme L'escarpé al sole de Paolo Monelli, publié en 1921. Dans toute cette littérature du temps de guerre et de l'immédiate après-guerre, on exalte le bon sens paysan, le courage stoïque, la patience, la loyauté, la discipline, le sens du sacrifice, l'altruisme désintéressé, la camaraderie solidaire, autant de valeurs qui sont associées au cliché de la vie austère en montagne. Et puis en même temps, cette littérature reprend le thème romantique du mythe de la montagne qui permet de régénérer le soldat citadin, la recrue, qui, endossant l'habit du chasseur alpin, acquiert sa dimension d'homme véritable, comme si, au fond, la guerre en montagne permettait de sortir de la vie décadente et malsaine de la ville. Le cinéma s'est également emparé de cette guerre en montagne avec l'un des films qui, sans doute, traduit le mieux la représentation patriotique et cinématographique. Il s'agit du film qui date de 1916, qui a été réalisé par Luigi Maggi et Giovanni Pastrone, Maciste Alpino. C'est l'histoire d'un chasseur alpin qui s'appelle Maciste et qui, par sa robustesse d'un géant, d'un colosse, arrive à, dans les Alpes, avec simplement une mitrailleuse, stopper une offensive autrichienne. Et donc, son rôle est héroïsé. Or, ce film, Maciste Alpino, est tellement important qu'il est même diffusé en salle, présenté aux soldats lors de leur départ pour le front. Et dimanche, j'étais à 30, il y a quelques jours, il y a trois jours, à l'occasion du Festival du film de montagne, qui est un festival international avec des films indiens, des films sud-américains, bon, sur les Andes et tout ça. Et le 1er mai a été diffusé encore Maciste Alpino, dans le cadre du centenaire de la guerre, de la Grande Guerre, pour vous dire que ce film s'inscrit bien dans une espèce de logique transfigurante. Et ce qui me frappe aussi, c'est que l'image du chasseur alpin finit par s'imposer à l'étranger. Alors, dans la photo suivante, il s'agit d'un document qui est paru dans le journal français L'Illustration, où l'on voit des chasseurs alpins en opération, date du 24 juillet 1915. C'est une photo qui était censée représenter la prise du Monténégro que j'évoquais tout à l'heure. Alors, ça n'a rien à voir, hein, c'est une photo d'entraînement sportif des chasseurs alpins, mais ce qui est intéressant, c'est la légende que l'on peut lire au bas de cette photo, je cite, « L'attaque du Monténégro au foot d'une hardiesse sans précédent. Les hommes de quelques détachements ôtèrent même leurs souliers, et c'est les pieds nus qu'ils terminèrent dans l'obscurité, une excursion presque incroyable, qui les mena à quelques mètres des retranchements autrichiens. Ceux-ci furent enlevés à la grenade et à la baïonnette. » Et même les chasseurs alpins se battent sans chaussures, hein, extraordinaire, dans un milieu montagneux, un milieu rocheux. Et après la guerre, le fascisme trouve dans le chasseur alpin, l'homme guerrier dans toute sa dimension sacrificielle et héroïque, s'inscrivant bien dans la phraséologie fasciste de l'homme régénéré, et le chasseur alpin devient la version positive de ce que peut être le soldat fantassin italien qui meurt sur le car sous la bencise et surtout qui a subi Caporetto, en faisant abstraction du rôle des chasseurs alpins pendant Caporetto. Et ce fantassin soldat de Caporetto, le caporettiste, est plutôt l'expression d'une monarchie libérale décadente. Tandis que l'alpine, par son caractère individuel, indiscipliné, hostile à toute réforme, mais gardien de l'Italie régénérée, gardien des Alpes ou autre, s'inscrit bien dans cette logique de transfiguration fasciste. Alors bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de voir la récupération mémorielle, c'est-à-dire comment cette mémoire des Alpes, cette guerre blanche, a pu perdurer. Dans chaque village alpin a son monument aux morts, dans lequel on retrouve les noms des chasseurs alpins qui sont battus. Et c'est oublié que beaucoup de chasseurs alpins sont morts sur le Carso, sur la Bensis, hein, pas toujours dans les Alpes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la guerre blanche a été sacralisée dans ces lieux de mémoire. L'Adamello, Asiago, le Passubio, déclaré en 1922 zone sacrée de la patrie, comme le Monte Grappa, l'Ortigar, le Col di Lana, le Cador. Il y a même à l'Adamello un musée de la guerre blanche. Et également, depuis les années 1980, une volonté italienne et autrichienne de s'inscrire dans une logique mémorielle de ce front qui court sur 500 km en créant ce qu'on appelait le Sentier de la Paix, qui a généré des fonds pour réhabiliter l'effort autrichien et italien dans cette logique-là. Et puis, il y a eu une exploitation touristique de ce qui était, ce que constituait ce champ de bataille. On a par exemple la route des tunnels du Mont Passibulo, qui a été creusée par le génie en 1917 à 2000 mètres, et qui aujourd'hui est exploitée par le club alpin italien sur 6 km pour permettre à des touristes de se promener sur les pentes abruptes et accidentées de la montagne, ce que je voulais représenter dans la photo suivante. Voilà, voilà, on a la possibilité de retrouver le chemin du Passibulo en baladant un sac à dos sur 6 km. Les anciens baraquements de la Grande Guerre, que j'avais montré tout à l'heure au pied du Passibulo, ont été exploités par le club alpin italien pour en faire des refuges de haute montagne, qui permettent ainsi aux gens de pouvoir visiter les champs de bataille. Ailleurs, dans les Cinque Torri, dominé par le Tofane, on a reconstitué un écomusée à l'échelle 1-1, c'est la dernière photo. Alors ça, on est toujours dans le chemin du Passibulo, c'est la dernière photo. Voilà, vous avez une représentation d'un poste d'observation avec des figurines à l'échelle 1-1, la reconstitution d'une tranchée en opération de guerre. Et si l'on peut baisser encore la photo, vous avez là représenté le milieu maintenu avec la tranchée dans laquelle on peut se promener et retrouver ainsi le champ de bataille. Alors pour conclure, la mémoire de la guerre blanche existe toujours, mais elle est concurrentielle de celle qui concerne le lieu de bataille traditionnel, la zone de l'Isonzo, du Carlo de la Bensise. Mais pour autant, hors d'Italie et en France notamment, ce qui m'a frappé, c'est que la guerre blanche a fini par occulter toutes les autres formes de guerre italienne. Et je prendrai un seul exemple, le documentaire historique Apocalypse, la Première Guerre mondiale, que vous avez certainement vu et qui a été diffusé sur France 2 du 18 mars au 1er avril 2014, et réalisé par Daniel Costel et Isabelle Clark. Cette représentation de la Grande Guerre en Italie, les quelques minutes qui sont consacrées à cette Italie ont été illustrées non par des images de la bataille, de la guerre du Carso ou de la Bensise, qui est une guerre de tranchées classique que l'on peut retrouver en France, mais par les exploits sportifs des Alpines et les paysages des Dolomites. Et Fabrice Puchot, qui est responsable des documentaires sur France 2, a déclaré au journal Le Monde à ce sujet: Isabelle Clark et Daniel Costel ont construit un récit et leur point de vue n'est pas celui de deux historiens, mais de deux cinéastes. Et vous voyez que plus que jamais, aujourd'hui comme hier, la guerre blanche des Italiens, durant la Grande Guerre, renvoie aux enjeux complexes d'une guerre fantasmée et fascinante, dont l'adaptation, l'exploitation et la représentation sont souvent bien éloignées d'une réalité qui est plus sombre et moins glorieuse. Voilà. Merci. Et merci Philippe, parce que ça a été le bras armé de cette intervention. Merci.